vers une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prudon et Alexandre Ribeyron.
Chers auditeurs, cher Alexandre, bonjour.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons aborder la diversité spécifique et nous verrons sur le plan pratique comment créer un refuge LPO pour accueillir la biodiversité.
Oui, eh bien, la biodiversité se décline sous différentes échelles, donc la variation génétique dont nous avons déjà parlé, et puis également la diversité spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces présentes sur Terre. Alors, parfois, on utilise le terme de biocénose. Si je donne une définition simple de la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace défini. Donc la Terre étant un espace défini, on peut considérer que les êtres vivants, l'ensemble des êtres vivants sur Terre, eh bien, représentent la biocénose terrestre.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une espèce, Alexandre ?
Alors, une espèce, c'est... Il y a de nombreuses définitions d'espèces. Disons que c'est un ensemble d'individus qui peuvent potentiellement se reproduire entre eux et dont la descendance est viable et féconde. Voilà. Alors pourquoi je donne cette définition ? Parce que c'est une définition qui fonctionne très bien pour un grand nombre d'organismes. Bien entendu, lorsqu'on a affaire à des espèces fossiles, c'est difficile de parler de reproduction puisqu'on a affaire qu'à des restes, des squelettes ou des traces. Donc il y a aussi une définition plus morphologique, c'est-à-dire c'est un ensemble d'individus morphologiquement similaires. Avec bien entendu les limites que cela impose, parce que si vous avez un petit peu de la variation, comment est-ce qu'on va traduire cette variation ? Et par exemple, pour les espèces fossiles, parfois on a quelques morceaux de squelette, puis qui sont un petit peu différents, donc on va donner des noms différents. Et puis, au fur et à mesure des fouilles, on va découvrir de plus en plus de squelettes et on va s'apercevoir que eh bien, ce qu'on avait pris pour deux espèces, c'est simplement le mâle et la femelle. Voilà. Donc il y a tout un travail de révision pour définir ce qu'est une espèce. Donc si vous voulez, on définit une espèce par ce qu'on appelle la diagnose. C'est-à-dire, on liste l'ensemble des caractéristiques qui sont propres à cette espèce, sa répartition géographique et également, et on définit donc un certain nombre d'échantillons comme étant les échantillons type pour l'espèce considérée. Sachant que, je le redis, une espèce, ce n'est pas une collection d'individus qui sont identiques, hein. Ce sont des animaux ou des végétaux qui se ressemblent. Donc il peut y avoir un petit peu de variation. Voilà. Bon, je peux raconter cette histoire qui est assez amusante. Il existe un mollusque d'eau douce, l'anodonte, qui ressemble à une moule, si vous voulez. Et au 19e siècle, chacun dans son coin décrivait l'anodonte, et ce qui faisait qu'en France, il y avait à peu près 250 espèces. Sauf que c'est une espèce qui est très polymorphe, c'est-à-dire qui peut avoir différentes formes, selon le milieu, le type de milieu aquatique dans lequel elle vit, l'importance du courant, etc. Et qu'en réalité, en France, vous avez une seule espèce. Voilà. Donc il faut faire attention parfois. Combien d'espèces, c'est une excellente question, parce que des espèces décrites, on en a en gros 1,7 million. Voilà. Il faut savoir que chaque année, 20 000 espèces nouvelles sont décrites, c'est-à-dire sont découvertes. Aussi bien, quand j'entends espèces, c'est les animaux, les végétaux, mais c'est aussi les bactéries, les organismes unicellulaires, hein. C'est pas uniquement les grosses bêtes et les grosses fleurs, hein. Les estimations, alors c'est là où c'est assez amusant, estimation basse, 5 millions, estimation haute, probablement une trentaine de millions, voire plus.
Oui, donc on en a encore beaucoup à découvrir.
Énormément, énormément, et même des espèces de vertébrés, par exemple. On a découvert récemment de nouvelles espèces de primates dans la région de l'Himalaya, etc. Donc voilà, même des grosses bêtes, on en découvre encore aujourd'hui.
Alors, on trouve des espèces un peu partout, mais où est-ce qu'on trouve la richesse un peu spécifique ou des lieux où on a plus de
Voilà.
biodiversité?
Alors, les lieux où il y a beaucoup de biodiversité, en gros, c'est les régions tropicales. Près de 50% de la diversité animale et végétale se trouve dans les régions tropicales, alors que ces régions tropicales, ces forêts tropicales, occupent seulement 7% de la superficie terrestre. Et dans le milieu marin, c'est au niveau en particulier de la Grande Barrière de Corail, qui représente quasiment rien en termes de surface. Par contre, elle contient par exemple 8% des espèces de poissons. Et chez nous, alors si j'ai une minute encore, juste pour parler de ce terme que je n'aime pas beaucoup, la biodiversité ordinaire, c'est ce qu'on a chez nous. Mais si on regarde dans son jardin, sur un bord de chemin, on verra que nous aussi, on a beaucoup d'espèces qui sont présentes. Ça me paraît important de se dire que même la biodiversité ordinaire que nous avons chez nous, elle n'est pas insignifiante. Voilà.
Donc, tout est important.
Tout est important. Et je crois que vous voulez nous lire une histoire de tourterelle.
Oui, tout à fait. Et donc, je vais vous lire un extrait du chapitre 24 des Fioretti de saint François d'Assise. Et le titre, c'est Comment un jeune homme qui avait pris beaucoup de tourterelles les donna à saint François sur sa prière, et comment ce dernier leur fit des nids. Donc on est dans l'accueil de la biodiversité. Un garçon dans la cité de Sienne, du temps de saint François, avait pris au piège une grande quantité de tourterelles et il les portait vivantes à vendre. Mais saint François, toujours plein de piété et en particulier merveilleusement compatissant avec les animaux paisibles, à la vue des tourterelles, mû par la compassion, dit « Ô bon jeune homme, je t'en prie, donne-les-moi pour que des oiseaux si innocents, auxquels dans l'Écriture sont assimilées les âmes chastes, humbles et fidèles, ne tombent pas dans la main de cruels qui les tueraient. » Lui, aussitôt inspiré par Dieu, donna toutes ses tourterelles candides au bienheureux François. Lorsque le pieux père François les eut prises en son sein, il se mit à leur parler très doucement, disant Ô mes sœurs tourterelles, candides, innocentes et chastes, pourquoi vous êtes laissées prendre? Mais moi je veux vous arracher à la mort et vous faire des nids, afin que vous fructifiez et que vous accomplissiez le commandement du Créateur de vous multiplier. Saint François s'éloigna et fit des nids à toutes les tourterelles. Elles, prenant les nids que leur avait préparés le bienheureux François, pullulaient et croissaient devant les frères, et elle montrait une si grande familiarité avec saint François et les autres frères qu'elle semblait comme des poules que les frères auraient toujours nourries. Jamais elles ne quittèrent les frères tant que saint François ne leur en eut pas donné licence en les bénissant.
Très très belle histoire, et je crois que vous voulez justement nous aider à fabriquer des nids pour accueillir nos amis les oiseaux.
Tout à fait. On va voir comment créer un refuge LPO dans notre jardin ou sur notre balcon.
Un refuge LPO, c'est-à-dire.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un refuge LPO? Alors, avec plus de 22 000 terrains, les refuges LPO constituent le premier réseau de jardins écologiques partout en France. Mais qu'est-ce qu'un refuge LPO? Un refuge LPO, c'est un terrain public, un espace vert, ou privé, jardin, cour, terrasse, balcon, sur lequel le propriétaire s'engage à préserver ou restaurer la biodiversité de proximité.
Ah, très bien. Et en quoi cela consiste?
Alors, il y a une charte et il y a des conseils qui sont donnés par la LPO. Le premier principe, je crée les conditions propices à l'installation de la faune et de la flore sauvage. Deuxième principe, je renonce aux produits chimiques. Troisième principe, je réduis mon impact sur l'environnement. Principe 4, je fais de mon refuge un espace sans chasse pour la biodiversité. Sur le site www.lpo.fr, on peut trouver tout un tas de conseils. Et nous, nous avons appliqué tout ça et nous avons pu observer énormément d'oiseaux. Bergeronnette grise, buse variable, chardonneret, corneille noire, coucou, chouette effraie, fauvette, jais, corbeau, grimpereau, huppe fassier, loriot, merle, mésange bleu, charbonnière, huppé, noir, milan noir, moineau, pivert, piquet-pêche, pie, pigeon, pinson, rouge-queue, rouge-gorge, sittelle, tourterelle et verdier. Et bien sûr, nous n'imaginions pas un instant que nous avions autant d'espèces d'oiseaux différentes sur notre terrain, mais en les accueillant et en créant un refuge LPO, ben nous avons pu les accueillir.
En effet, on est surpris de la longue liste. Si on m'avait posé la question, j'aurais dit oui, probablement pie, merle et puis peut-être étourneau. Et là, on a une belle trentaine d'espèces qui vivent sur un terrain qui n'est pas non plus très, très, très grand. Et ce que je trouve très intéressant au niveau justement de ces refuges LPO que je découvre, c'est le fait que ça peut être de petits espaces.
Tout à fait, ça peut être un balcon. C'est pour ça que je conseille vivement d'aller sur le site www.lpo.fr, rechercher donc refuge LPO. Et là, il y a tout un tas de conseils, il y a cette fameuse charte, et également, il y a tous les lieux où il y a déjà des refuges. Et parmi vos voisins, je suis sûr qu'il y a au moins un refuge LPO pour trouver conseils, exemples à suivre.
Eh bien oui, en effet, c'est un bel exemple à suivre, à mettre en pratique. Merci Didier, chers auditeurs,
merci
à bientôt.
Alexandre, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.